Dutrisac.
Même si tous les chapeaux lui font, il ne parle jamais à travers son chapeau. Vous écoutez
Dutrisac.
Nathalie Ouellet est avec nous. Elle est astrophysicienne et elle a développé des cataractes depuis la dernière éclipse solaire. Mme Ouellet, bonjour.
Bonjour, la vie est pénible maintenant.
Oui, c'est ça, tu vois. Pas drôle des cataractes, j'en ai eu, moi, c'est pas le fun. T'as regardé ça de façon sécuritaire, l'éclipse?
Oui, bien sûr, bien sûr. Bon, je me suis réveillée tôt. Moi, je ne suis pas lève tôt, mais je me suis réveillée hier à 4h30 du matin et puis à 5h.
As-tu été de mauvaise humeur toute la journée?
Non.
Non, c'est correct.
Je suis pas lève tôt, mais puis je bois pas de café non plus. Donc, je suis pas le genre de personne qui est comme, parle-moi pas si j'ai pas mon café.
Okay,
non,
okay.
Je sais bien en jouer.
C'est bon à savoir. Donc, tu te lèves tôt, tu vas, t'es allé au parc Jeanne-Mance.
Oui, donc je suis allée au parc Jeanne-Mance, proche du gazebo, et puis il y avait peut-être 200-250 personnes là, et j'avais apporté avec moi des filtres solaires en supplément, donc j'ai pu les distribuer pour que tout le monde ne développe pas de cataracte. Et on a tous regardé ça ensemble, parce que ça s'est bien passé. Il y avait quelques nuages ici et là, mais sinon, c'était un super beau spectacle. Est-ce que toi, tu as eu la chance de le voir?
Écoute, j'ai viré de bord, j'ai essayé, puis j'avais rien, tu sais, pour le regarder. Fait que j'ai fait comme tout le monde, je l'ai regardé à la télé.
OK, bon, mais ben, t'as vu les belles images quand même.
Quand même. Mais qu'est-ce que ça te dit quand tu regardes ça, toi? Comment tu décodes cet événement-là? Parce que tu le fais pas de la façon que tous les autres personnes le font.
Ah, ben, c'est ça, je suis pas sûre que c'est vrai. Parce que je veux dire, je suis astrophysicienne, mais je suis une personne humaine qui a des émotions et tout.
Oui.
Donc... je sais pas si je vis ça de manière très différente. J'étais en train d'écouter certaines entrevues faites avec des personnes qui regardaient, et puis un gars avait mentionné que quand il regarde ça à travers le film, bien sûr, il y avait comme un certain sentiment de vertige, comme il voyait un peu ces objets célestes bouger autour de lui. Et puis moi, quand je le regardais, quand on regarde, en tout cas pour moi, en premier plan, à première vue, tu vois juste un croissant de lumière, comme si le soleil était un croissant. Mais t'es capable de genre juste te conserver un tout petit peu, puis à place de le voir comme un dessin d'un croissant dans le ciel, à place de vraiment le voir comme il y a un gros soleil, puis il y a une boule tridimensionnelle noire qui passe par-dessus, puis c'est la Lune, puis t'es capable de voir la Lune vraiment bouger à travers l'espace et bloquer le soleil.
C'est comme le ciel en 3D, hein? Ce qu'on voit jamais.
Oui. C'est ça. Donc, je l'ai vu comme un peu plus en 3D que d'habitude. Et ça, j'ai trouvé ça vraiment trippant.
Bon, j'aurais dû m'équiper puis le regarder. Tu me fais regretter.
T'aurais dû me le dire. Je t'en aurais envoyé.
Ah oui. La prochaine fois. Bon, explication de ce qu'on savait avant les aurores boréales et australes.
Oui. Donc, ce qu'on savait avant les aurores boréales et australes, c'est super beau. Est-ce que tu en as déjà vu ça au moins?
Oui, en Abitibi.
OK. Moi, j'ai jamais vu ça. Donc, ça, c'est sur ma bucket list. J'aimerais beaucoup en voir avant la fin de ma vie. Donc, on sait que c'est une interaction entre des particules qui proviennent du soleil pendant des tempêtes solaires et l'atmosphère de la Terre.
Où c'était pas ça?
Un beau spectacle de lumière.
Ouais.
Pardon?
Où c'était pas ça? Mais j'ai vu des lumières. C'est quoi? Aurore boréale, là, c'est comme un arc-en-ciel dans le ciel. Là. C'est la nuit.
C'est ça, c'est la nuit, et puis les couleurs, typiquement, c'est vert, mauve, bleu un peu. Et puis, c'est comme des lumières dansantes qui dansent dans l'atmosphère.
Mm-hmm.
Et puis, on les voit dans les latitudes très nord ou très sud, donc près des pôles, très proche de l'équateur. Bon, c'est pour ça que tu l'as vu en Abitibi, puis pas à Montréal, mettons.
Ouais.
Et puis, on savait un peu c'était quoi, mais pendant longtemps, on n'était pas exactement sûr c'était quoi l'interaction ou juste ce qui se passait pour produire cette lumière-là.
Puis c'est quoi?
Donc, finalement, qu'est-ce qui est arrivé? C'est que récemment, des chercheurs de l'Université d'Iowa ont créé des aurores boréales dans un laboratoire en Californie, dans une zone de grosse pièce de 20 mètres de long. Ils ont été capables de recréer comme une genre de mini-tempête solaire qui cause des vagues électromagnétiques. Et puis, ils ont recréé aussi le champ magnétique de la Terre dans ce laboratoire-là, ils ont déterminé que des ondes, qu'on appelle les ondes alphènes, qui sont produites par les tempêtes solaires, y entraînent des électrons qui se promènent dans l'espace. Et puis, ces électrons sont comme poussés sur l'atmosphère. Ils excitent les molécules d'oxygène et d'azote dans l'atmosphère. Et lorsque ces molécules-là se calment, elles produisent de la lumière. Et c'est ça qu'on voit, les aurores. C'est les molécules excitées qui se calment. Et en se calmant, ça sort de la lumière.
Des molécules excitées.
Ouais, c'est des molécules excitées. C'est comme un genre, une vague. Et puis, ça l'entraîne un surfeur. La vague, c'est les ondes du soleil. Le surfeur, c'est les électrons.
Okay.
Projeté sur le bord de la plage, qui est l'atmosphère, le sable s'excite. Puis quand il se calme, ça fait de la lumière.
OK, c'est pas le surfeur qui est excité.
Non, c'est le sable. C'est qu'est-ce qui est frappé par le surfeur qui s'excite.
Ah, OK. Puis il s'excite pour quelle raison? Pas le surfeur, là, mais la molécule?
C'est parce que les électrons qui sont propulsés par les ondes, ils arrivent vraiment vite. C'est un peu comme si tu t'es frappé par, mettons, un camion, là. Ben, toi, tu pognes pas mal d'énergie du camion qui vient de te frapper.
OK, c'est comme Jake Evans avec Shai Filet de Winnipeg, là, quand il s'est fait ramasser.
Oh, t'as pas regardé
le hockey. Oh, excuse-moi. OK.
Ah, oh, OK, oui, Jake Evans, OK.
Le gars qui s'est fait frapper, oui, c'est ça. Bref, excuse-moi.
Ouais, c'est ça,
OK,
voilà.
Donc, bon, là, une fois qu'on l'a compris, qu'est-ce que ça donne, où est-ce que ça nous amène?
Oui, OK, donc c'est ça que c'est beau comprendre le phénomène naturel et tout, mais c'est très important de comprendre les interactions entre le soleil et la Terre, parce que les tempêtes solaires, c'est très dangereux pour nous. Donc, le soleil, lui, est sur un cycle de 11 ans avec des maximums d'activité, des minimums d'activité. Pendant les maximums d'activité, il peut avoir des tempêtes géomagnétiques ou des tempêtes solaires très violentes. Ça propulse énormément d'énergie. Ça nous lance plein de surfeurs, mettons. Et puis, ça peut frapper pas seulement notre atmosphère, mais nos satellites aussi. Et des fois, c'est tellement intense, ces tempêtes-là, que le champ magnétique de la Terre est pas suffisant pour nous protéger. Et c'est ça qui est arrivé en 1989. Il y a eu plusieurs tempêtes solaires très intenses. Ça a causé l'écroulement complet du système d'Hydro-Québec. Donc, moi, je ne
m'en souviens
pas, mais il y avait plein de pannes d'électricité à ce moment-là à cause du soleil.
Mmh. Oh, oui, je m'en souviens. Mais pourquoi c'est dangereux pour la Terre?
Donc, c'est dangereux parce que c'est des particules. C'est comme la radiation très, très, très intense. Et puis, ça peut faire fondre les transformateurs du réseau hydroélectrique. Ça peut endommager nos satellites. Puis, on en dépend pour nos télécommunications, pour le GPS et tout. Et en plus, les satellites sont à l'extérieur du champ magnétique. Donc, eux sont même pas protégés par le champ magnétique. Tu sais, tu as déjà vu, je pense que dans Away, ça arrive même, et autres types de science-fiction, ils disent, oh non, il y a une tempête solaire, il faut aller se mettre dans un module spécifique de la station spatiale qui est plus abrité. Parce qu'il y a quelque chose dans le mur, c'est très dangereux. Et c'est une des raisons pourquoi les astronautes ont plus de cancer, parce que la radiation du soleil peuvent affecter leur corps.
Les astronautes, c'est répertorié, c'est documenté, ont davantage de cancer?
Oui, ils ont même les pilotes, juste à être en altitude très fréquemment, ils sont un peu moins protégés par l'atmosphère, le champ magnétique. Eux ont plus de cancer et les astronautes, c'est encore pire parce qu'eux sont vraiment mal protégés.
OK, mais là, Nathalie, excuse-moi, là, mais quand tu nous parles des stations lunaires pour éventuellement aller sur Mars, c'est parce que on va être radioactif, là, on va devenir vert fluorescent, nous autres, là?
Ben, pas nous autres, parce que c'est pas nous qui vont y aller,
non, mais
les astronautes, certainement. C'est pour ça qu'il y a plein de recherches qui se font pour essayer de trouver des matériaux qui sont capables de bloquer justement la radiation du soleil un peu plus efficacement. Des fois, quelque chose aussi simple que de l'eau, une grosse couche d'eau dans le mur de la station spatiale peut aider beaucoup. Mais c'est lourd de l'eau, donc on essaie de trouver des matériaux plus légers.
Eh bien, bon, mais écoute, tout ça, là, c'est à la suite de l'éclipse. L'éclipse, elle revient quand? 2024?
Donc, il y en a une autre partielle en 2023, mais le gros spectacle, c'est le 8 avril 2024. On va voir une éclipse solaire totale. Laval va pas l'avoir totale, la moitié de Montréal va l'avoir totale, mais l'Observatoire du Mont-Mégantic qui est à 3 heures de route d'ici, lui va avoir 3 minutes et demie de totalité, donc un trou noir béant dans le ciel.
Ouais.
Donc, ça se peut que moi, je me déplace un peu vers mon mégantique.
Et le système, quand tu parles de tempête solaire, là, avant qu'on se quitte, Nathalie, ça, est-ce que toi, ça, c'est des choses qui t'inquiètent?
Je dirais pas que ça me garde éveillée la nuit. Je suis consciente de ce danger. En général, la Terre, nous, on est assez bien protégés par le champ magnétique, justement. De temps en temps, on va avoir des épisodes comme celui de 1989, mais c'est pas pour pire. Vraiment, le grand danger, c'est pour tous ces voyages interplanétaires qu'on commence à planifier. Mais je fais confiance aux scientifiques qui font de la recherche pour trouver des bons matériaux pour protéger les astronautes.
Et que t'es sage. Parfait. On se laisse là-dessus, Nathalie. Merci. À la semaine prochaine.
Bonne fin de semaine.
Salut.